Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous de musique liturgique, ici sur Radio Présence. Vous êtes sur Point d'Orgue. Vous savez que j'ai l'habitude d'inviter certains de mes amis et camarades et estimés collègues musiciens. Aujourd'hui, donc, je vous fais une petite surprise. Je vais vous présenter Mathieu Duboc. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors, Mathieu est le chef du chœur d'hommes de la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin. Et avant de nous dire pourquoi il y a cette appétence pour le chœur d'hommes, peut-être que Mathieu, tu pourrais te présenter à nos auditeurs.
Alors, je suis originaire du nord de Toulouse. J'y ai vécu pendant plus de 20 ans avec ma famille. Et là-bas, j'avais pas vraiment accès à la formation au conservatoire, puisqu'il était beaucoup trop loin à Toulouse. Donc, j'ai étudié la musique dans une école de musique de manière tout à fait classique. Mais le chant est venu beaucoup plus tard. C'est à l'âge de 20 ans, dans ma paroisse, à Grenade, que j'ai fait la connaissance de Benjamin Lautier, qui est l'actuel maître de chapelle de la basilique Bonaventure à Lyon, qui est venu faire un projet autour de la musique sacrée pour remettre ce répertoire dans les églises. Et c'est ainsi qu'il m'a recruté dans la chorale pour me former au chant. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'en suis venu à participer à différents chœurs. J'ai participé à des chœurs d'enfants, à des chœurs d'adultes, des chœurs d'hommes également. Et j'ai fini par me prendre de passion pour ces formations. Et c'est spécifiquement pour ça que j'ai intégré le conservatoire à l'âge de 22 ans pour faire de la direction de chœur, pour être là où je suis actuellement.
D'accord, et donc bon, c'est un beau parcours, mais pourquoi, enfin la question qu'on peut se poser naturellement, c'est que quand on écoute du chant choral en général, c'est pas le chœur d'homme qui vient en premier, c'est pas quelque chose qui nous est très familier, on n'est pas comme avec la musique orthodoxe ou très byzantine, la musique russe, etc., où le chœur d'homme est toujours au centre du projet. Ici, en Occident, c'est très différent. Qu'est-ce qui t'a fait Enfin, quelle est l'appétence? Pourquoi est-ce qu'un jour tu t'es dit, bon, bah, je vais aller dans ce choix esthétique qu'est le chœur d'homme?
Alors ça, cette origine remonte à quand j'étais à la maîtrise de la cathédrale, où la chef de chœur avait pour habitude de faire chanter une grande partie du concert par les voix d'enfants, puisque une maîtrise, c'est quand même les voix d'enfants. Elle faisait notamment chanter les jeunes filles à voix égales pendant 20 minutes pendant un concert. Et je me souviens, désolé pour cette chef de chœur, je me souviens m'être énervé lors d'un concert en me disant « mince, on passe 20 minutes sur la touche à écouter des voix égales féminines. Il doit exister la même chose pour les voix d'hommes. » Je n'avais encore jamais entendu. Je me suis mis à rechercher ce répertoire-là et je suis tombé sur une œuvre, le Beati Mortui de Mendelssohn, qui m'a vraiment laissé sans voix. Quand le morceau s'est terminé, tout ce que j'avais envie, c'est de le réécouter encore et encore. Et ce morceau m'a fait dire, un jour, je formerai un chœur d'homme et je dirigerai ce morceau.
Eh bien, chers auditeurs, je vous propose d'écouter ce premier coup de foudre, et ça vous donnera peut-être à vous aussi envie d'intégrer un chœur d'homme. En tout cas, voici le Beati Mortui de Félix Mendelssohn.
Thank you.
C'est un très beau coup de foudre, Mathieu. Merci de nous l'avoir fait découvrir. Alors, on sent quand on écoute ce morceau il y a bien entendu des influences musicales antérieures. Ça s'entend assez largement. Est-ce que tu peux nous parler, donc, outre cet attrait esthétique que tu as eu après ce coup de foudre, je pense que parler des chœurs d'hommes, c'est aussi s'inscrire dans une sorte de continuité d'histoire de la musique. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, tout à fait. Alors nous allons faire un petit retour dans le passé puisque nous étions dans la musique romantique du 19e siècle. Je vais revenir dans mes explications plutôt au Moyen Âge. Il faut savoir que les femmes, depuis le Moyen Âge jusque la moitié du 19e siècle, n'avaient pas le droit de chanter dans les chœurs. À l'exception près, bien évidemment, des couvents où des religieuses composaient et chantaient de la musique, depuis le grégorien jusqu'à la polyphonie, l'une des figures les plus emblématiques de cela est Hildegard von Bingen, mais nous n'allons pas en parler puisqu'il ne s'agit pas de chœurs de femmes. Les chœurs d'hommes étaient très intéressants puisque la polyphonie pouvait commencer à naître dès lors que sur le grégorien nous rajoutions des bourdons, des voix en parallèle, jusqu'à arriver à une écriture beaucoup plus homorythmique. Donc là, je vais vous faire écouter deux morceaux, un du Moyen Âge et un de la fin du XVIIe siècle, accompagné à l'orgue. Alors tout simplement, pour rentrer dans le vif du sujet, le premier s'appelle Anima mea linquefacta est de Guillaume Dufay, qui est une musique médiévale, Guillaume Dufay étant l'un des compositeurs les plus connus de cette époque-là en Europe. Vous allez reconnaître une influence dans le phrasé grégorien avec l'apparition de premiers rythmes. Nous sommes face à trois chanteurs qui vont développer le même thème avec une entrée en forme canonique. Vous pourrez même entendre l'influence contemporaine des chanteurs aujourd'hui avec quelques vibratos qui, bien sûr, à l'époque, n'avaient pas lieu d'être.
Et dans un deuxième temps, tu vas nous proposer un morceau qui est plus dans les canons de ce qu'on a l'habitude d'entendre, parce que je crois que tu es parti sur Charpentier et son fameux Stabat Mater. Là, on va rentrer dans quelque chose de plus polyphonique et instrumental, c'est ça?
Oui, tout à fait. Ça fait partie des méditations de Marc-Antoine Charpentier qui ont été composées pour le carême, où là, on a le continuo à l'orgue qui permet de soutenir la voix.
Très bien. Donc, chers auditeurs, on vous propose dans un premier temps ce morceau de Guillaume Dufay, puis ensuite le Stabat Mater de Marc-Antoine Charpentier.
Thank you.
Là aussi, un chef-d'œuvre de la musique donc par Marc-Antoine Charpentier. Donc, on comprend tout à fait ce qu'il y a autour de cette couleur qui entoure les voix d'hommes, les chœurs d'hommes. C'est très spécifique, effectivement. Ça donne quelque chose de très chaleureux. Est-ce que peut-être, Mathieu, tu peux nous dire, d'un point de vue harmonique, d'un point de vue de l'écriture, d'un point de vue des gens qui interprétaient cette musique, comment ça se passait et aujourd'hui, comment ça se concrétise?
Tout simplement, déjà, quand on écoute le grégorien, puisqu'on revient systématiquement à cette musique-là, ce qui est intéressant dans le grégorien, c'est que on produit une note, on produit la note qui est juste au-dessus, par exemple un do et un ré, et dans la résonance du do, on va entendre le ré. Ça va dégager certaines harmoniques en fonction des lieux qui vont pouvoir s'épanouir dans une église. Lorsque l'on écrit pour chœur mixte, c'est-à-dire pour soprano, alto, ténor, basse, avec la présence de femmes, on perd un petit peu ce côté-là puisqu'il y a de la distance, étant donné que les femmes chantent beaucoup plus aiguë, il y a de la distance entre les voix. Lorsque l'on réduit l'harmonie pour un chœur d'homme, on retrouve ces frottements, on retrouve ces couleurs-là, mais cette fois-ci en instantané pour chaque accord dans lequel on avance. Et en fait, il y a à la fois une liberté et à la fois des complications lorsque l'on compose pour chœur d'homme. Alors au début, c'était un petit peu obligatoire puisque, comme je le redis, les femmes ne pouvaient pas chanter dans les chœurs. Alors on pouvait trouver quelques stratagèmes, comme par exemple faire chanter des enfants. Ça, c'est apparu très rapidement, les Schola Cantorum ou les maîtrises qui composaient les églises, les cathédrales, les basiliques, exclusivement composées de garçons d'ailleurs, qui venaient se rajouter au chœur d'homme pour avoir la polyphonie complète. On avait également des contre-ténors qui pouvaient monter beaucoup plus aigus, pas autant qu'un enfant bien évidemment, et on a eu dans la deuxième partie de la période de la Renaissance l'apparition de castrats. Donc aujourd'hui cette tradition n'existe plus. Mais on a toute une diversité de compositions et de couleurs. Alors moi ce que je trouve très intéressant c'est de voir que on a des morceaux qui autrefois étaient composés pour chœur d'hommes, qui aujourd'hui ont été transposés un petit peu plus aigus pour pouvoir sonner pour des voix de femmes, et je m'amuse de temps en temps à redescendre à nouveau ces morceaux pour les faire sonner en chœur d'hommes. Alors maintenant je vais faire un énorme bond dans le temps, on va passer dans le XXe siècle, et j'aimerais vous parler de deux compositions, l'une moderne et l'autre contemporaine. La première est de Francis Poulenc, il s'agit des quatre prières de Saint François d'Assise, donc ce n'est pas un morceau liturgique à proprement parler, c'est quand même de la musique sacrée. Je vais vous faire écouter le troisième mouvement pour que vous entendiez comment les compositeurs modernes, qui pourtant ont la possibilité de faire chanter des femmes, s'amusent à retrouver ces couleurs-là.
Avec cette fameuse reprise qui est, je trouve, un petit peu moyenâgeuse, de on resserre l'harmonie à la fin. Bon, souvent on avait des quintes à vide, là on retrouve un espèce d'accord parfait, mais tout pur, qui à mon avis fait référence à cette longue et belle histoire des chœurs d'hommes. Alors il est vrai que quand on écoute un extrait comme celui-ci, celui de Poulenc, qu'on se retrouve face avec la complexité des harmonies, en plus que permet l'écriture du XXe siècle, et avec toutes les possibilités que cela fait en termes d'harmonique que. d'harmonique pour les oreilles, pour voir là où on peut aller. Et tu nous proposes, Mathieu, un deuxième morceau, pour qu'on prenne conscience de cela, un morceau plus contemporain encore, qui a été écrit aussi pour chœur mixte. Je crois même, chers auditeurs, que j'ai dû vous en parler. Il s'agit de Hola Yellow, et toi, tu vas nous présenter une version particulière.
Il s'agit en fait d'une version qui a été écrite quelques années plus tard, qui reprend exactement la même écriture, la même harmonie, à quelques exceptions près quand on regarde la partition de plus près. Et elle a été transposée, Hola Yellow a tout simplement pris le morceau pour chœur mixte et l'a transposé une quinte en dessous pour que ça soit chantable pour un chœur d'homme.
Eh bien, on va écouter tout de suite cette transformation. Et si ça vous a plu, ce qui serait intéressant, chers auditeurs, c'est que vous écoutiez sur YouTube les versions qui existent pour chœur mixte et la comparer avec celle qu'on va vous faire découvrir dès à présent. Donc, ce morceau de Hola Yellow sur le Ubi Caritas, qui est un thème que vous connaissez déjà bien. Et voilà, chers auditeurs, pour cette magnifique Ubi Caritas de Hola Yellow, que j'espère que vous avez pu redécouvrir avec ces voix d'hommes qui apportent vraiment quelque chose de très différent. J'espère que vous y êtes sensibles et que ça vous donne envie de découvrir plus de choses sur ce répertoire des voix d'hommes. Alors, Internet fourmille d'idées, de motets que vous pouvez entendre de toutes les époques, puisqu'on vous a fait un balayage quand même assez large avec Mathieu. Mais je me pose quand même une question, Mathieu, sur ton... un peu ton métier, hein, si j'ose dire, puisque tu es chef de chœur à Saint-Cernin, donc vous avez démoté fort bien, mais post-Vatican II, des messes accessibles avec les canons d'aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose qui est reprenable par l'Assemblée, est-ce qu'on en trouve? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça se compose exactement comme si on avait des chœurs de femmes? Est-ce qu'il y a des spécificités? Tu peux peut-être nous en parler un petit peu?
C'est un des gros problèmes que nous avons eu lors de la création du chœur d'hommes. Alors, au début, on bricolait un petit peu en reprenant des messes habituelles pour chœur mixte, en re-répartissant les voix, mais on se retrouvait systématiquement avec le ténor qui était au-dessus de la mélodie et qui la rendait un peu non intelligible. Donc, j'ai demandé à Cyril Chantelot, avec l'accord du curé de la paroisse, de nous composer une messe pour chœur d'hommes exclusivement, avec toutes les contraintes que cela impose, puisqu'il faut que la mélodie, qui est la voix de ténor 1, soit accessible à l'assemblée, donc pas trop haute. On ne peut pas monter jusqu'au sol aigu comme c'est le cas dans le Ubi Caritas de Yello. Et à la fois, je voulais que l'harmonie soit quelque chose de suffisamment audible pour l'assemblée. Je ne voulais pas un travail trop contemporain non plus. Et Cyril Chantelot a réussi ce pari en composant la messe de Saint-Sylve, qui est une messe qui est chantée depuis près de 2 ans à la basilique Saint-Cernin. Et je dois dire que l'assemblée la reprend à plein poumon.
C'est vrai que c'est une messe qui est extrêmement réussie. Donc, chers auditeurs, si vous voulez entendre en vrai, parce que on vous dit sur Internet, sur YouTube, etc., vous avez des choses, mais vous pouvez également venir entendre le chœur d'hommes en vrai, qui chante une fois par mois à la basilique Saint-Cernin. Et vous pouvez également l'entendre en concert, puisque il y en a deux, hein, qui sont prévus, le samedi 6 mai à 20h30 à l'abbatiale de Moissac et le lundi 8 mai à 18h à l'église de Blagnac, où vous aurez des œuvres pour chœur et orgue. Cher Mathieu, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et vous, chers auditeurs, je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Point d'Orgue avec d'autres belles surprises musicales que je serai heureux de vous faire découvrir. Très belle journée à toutes et tous.